Salut, mon nom est Mathieu, vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Daniel Groslot-Landry. Hey, salut, cette semaine à La Convo, je vous présente une conversation que j'ai enregistrée il y a déjà de ça quelques semaines. Comme vous avez pu le constater depuis le début du podcast, j'ai la chance de discuter avec une grande diversité de gens. L'important pour moi, c'est d'explorer un côté plus humain et tenter de créer un moment intime avec mes invités. J'espère que les histoires que vous avez entendues jusqu'à aujourd'hui sont aussi pertinentes que je le pense. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ictin.us. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Podbean, YouTube et Facebook. Le plus simple, c'est de se rendre sur le site web laconvo.buzzfortin.com. Vous allez y retrouver tous les liens pour vous abonner et écouter les épisodes. Daniel, c'est un artiste à plusieurs facettes. Vous allez voir qu'il a appris très jeune à utiliser les mots pour s'exprimer et se faire entendre. Après une enfance difficile, il est maintenant un auteur récompensé. Il vient tout juste de lancer son troisième recueil de poésie et son tout premier EP. Voici La Convo avec Daniel Groslot-Landry. Daniel Groslot-Landry, merci d'avoir accepté l'invitation à La Convo d'être venu chez moi.
Oh, ça me fait plaisir, Mathieu.
C'est vraiment le fun de te recevoir. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à ton lancement d'album aussi au lancement de ton dernier recueil de poésie, Fragmentiel.
Oui.
Oui, c'était un bel événement.
Ben merci. Écoute, tu sais, pour moi, c'était vraiment important de faire un événement qui reflète un peu ma pratique double, tu sais, de faire un événement qui mélangeait poésie et musique, tu sais, puis il y avait un très beau line-up. Je suis vraiment content comment la soirée s'est passée.
Ouais, tu étais confortable, tu t'es assumé.
Oh my God, oui. Yes, oui. Ouais, ouais. Je suis rendu à un point là, dans ma démarche où je suis vraiment, vraiment comme qui je suis puis qu'est-ce que je fais sur scène.
On va mettre la table, tu es un auteur, compositeur, interprète, poète et professionnel des communications.
Oui,
on peut dire
producteur
ça comme ça.
Producteur d'événements. Puis, tu sais, fier franco-canadien.
Oui. C'est certain que la francophonie prend une grande place dans nos vies.
Ben oui.
C'est la langue que tu as choisie pour exprimer la majorité, sinon pas l'entièreté de tes projets.
Je dirais
90%. 90, oui, ouais, c'est ça. Tu es natif d'où, toi?
So, moi, je suis originaire de Sudbury.
Okay.
Donc, j'ai habité à Sudbury le premier 18 ans de ma vie. Après ça, j'ai déménagé à Ottawa pour faire mes études. J'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa. J'ai vécu à Toronto pendant un an, mais après ça, j'ai décidé, je reviens dans l'Est, puis j'ai décidé de m'établir à Ottawa.
On est quand même bien dans l'Est, là.
Ouais, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Mais, tu sais, moi, j'aime tout le temps ça, retourner dans le Nord, voir mon monde, puis tout ça, voir ma famille, puis tout, puis... J'ai quand même un attachement assez solide.
Ben, tes souvenirs d'enfance, l'adulte que tu es devenu quand tu as atteint l'âge adulte, son référent est là-bas.
Ouais, ben tu sais, j'ai grandi. So, tu sais, quand tu grandis dans le nord de l'Ontario, puis comme tu es francophone, puis tout ça, tu te fais. Tu as un peu l'occasion de côtoyer, tu sais, comme ben du monde artistique. Il y a quand même une grosse concentration d'artistes, de gens qui font des affaires extraordinaires. Fait que c'est clair que j'ai des référents culturels qui proviennent du nord. Tu sais, ça a vraiment défini une bonne partie de mon adolescence, puis de ma vie de jeune adulte. Là.
On se connaît, mais on se connaît pas tant que ça.
Ben, je pense qu'on s'est peut-être plus connus avant.
Ouais. On s'est croisés souvent.
Oui.
Mais là, c'est le fun parce qu'à la convo, on a la chance vraiment de connecter un peu plus puis de je vais en apprendre un peu plus sur qui tu es. Puis une question que j'aime beaucoup poser aux invités, c'est quel genre de petit garçon tu étais quand disons, au primaire, au secondaire, tes amis, à quoi ressemblait un peu ta vie sociale, familiale là, quand tu étais petit garçon?
Oh, c'est intéressant, ça, comme question. Quand j'étais petit gars, je vais le séparer en élémentaire, secondaire, parce que c'est vraiment une grosse différence. Quand j'étais à l'élémentaire, j'étais un petit gars avec des lunettes, qui aimait beaucoup lire, qui était un petit peu grassouillet, qui était pas mal insécure, qui restait vraiment dans sa petite bulle, qui aimait beaucoup lire, qui était vraiment comme plus renfermé sur lui-même, gêné, tu sais. J'avais de la misère à me faire des amis, tu sais. Mais j'avais quand même des bons amis en grandissant. Des amis vraiment proches, puis des amitiés vraiment intenses. Quand je suis... Puis, tu sais, J'étais vraiment, partant pour devenir, scientifique ou auteur ou quelque chose avec, le cerveau. On m'appelait tout le temps le petit dictionnaire parce que je connaissais tout le temps toutes sortes de mots différents parce que je lisais beaucoup.
OK, là, le bon mot, ben le... C'est ça. Tu corrigeais beaucoup les gens?
Ouais, ben je connaissais les définitions des mots. Je savais qu'est-ce que ça voulait dire. Je l'avais tout le temps ma mère en classe de français ou d'anglais, tu sais, comme je... c'était une grosse partie en fait de mon enfance. C'était tout le monde me disait t'es tellement smart, t'es tellement intelligent, tu dois continuer là-dedans, etc. Fait que pour moi, une grande partie de ma valorisation, ça passait par ça. Au secondaire, ça a été vraiment autre chose. Moi, j'ai eu un éveil par rapport à mon homosexualité vraiment jeune. Puis ça a créé toutes sortes de confusions puis de conflits émotionnels, tu sais, assez jeune.
Avec toi-même ou avec ton entourage?
Avec moi-même et mon entourage. Ouais, les deux.
Parce que t'étais à Sudbury à ce moment-là.
Ouais, c'est ça, c'est non, ouais.
Est-ce que je me trompe? Je pense
en 2000.
On a fait des pas de géant.
Ouais, depuis, for sure.
Fait que je peux imaginer, mais je peux pas imaginer, mais je peux imaginer.
Moi, je comprends ce que tu veux dire.
Que c'était peut-être plus...
Dude, c'était rough.
Plus tabou qu'aujourd'hui. Ouais.
Man, c'était rough, OK? Utiliser le mot F, là, à gauche puis à droite constamment. Il y avait vraiment comme une culture d'homophobie qui existait, surtout parmi mes pères, comme les jeunes de mon âge tout. Les gens qui étaient différents, puis pas juste par rapport à l'homophobie, mais n'importe qui était différent, en fait, était vraiment exclu. C'était très catho, très blanc, très straight.
Ouais.
C'était assez difficile de grandir là-dedans, même si je suis quand même un homme blanc, là, ça a quand même été difficile pour moi, grandir francophone, grandir gay dans le Nord, puis... ça l'a fait en sorte que j'étais bien rebelle quand j'étais kid. Sauf comme j'étais bien en colère aussi, j'étais en crise contre tout le monde tout le temps. Puis,
pourquoi? Parce que tu te sentais incompris?
Je me sentais incompris d'une certaine façon, puis je pense aussi que je me sentais exclu. Je pense que c'est c'était l'isolation. Le rejet.
Parce que je trouve le mot rejet violent.
Oui.
Puis quand tu sens rejet, tu te sens projeté à l'extérieur.
C'est parce que c'est actif, le rejet.
Ouais.
Tu sais, l'isolement, c'est comme plus soit par rapport à soi-même, mais le rejet, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu de façon active à plusieurs sphères différentes de ma vie, tu sais. D'une part, tu sais, à l'école, d'une part, tu sais, dans mon cercle familial, tu sais, c'est... Donc, comme plus élargi, là, pas au niveau de ma famille immédiate. Ma famille immédiate, c'était super, c'est juste que comme, tu sais...
T'as eu un bon appui de ta famille immédiate.
Ouais, comme ma mère, mon père... mon frère, ma soeur, comme on n'était pas toujours proches, grandissant, mais au moins mes parents, ils m'appuyaient, comme quand je me suis affranchi, quand je leur ai dit, ils étaient super, ils étaient vraiment comme...
Quel âge t'avais quand t'as...
Comme 13 ans.
13 ans. C'est big, même aujourd'hui, c'est big pour un jeune de 13 ans de dire « j'assume ».
Ouais.
Puis c'est pas juste l'homophobie, ça peut être n'importe quoi.
Ouais.
Qu'un jeune de 13 ans s'affirme sur la réalité de qui il est, c'est quand même fort. Dans l'intérieur de toi, tu sembles savoir
qui tu es.
T'sais.
Oui, je te dirais qu'une des raisons pour lesquelles j'étais capable de faire ça jeune, c'est parce que j'avais les mots pour le faire. Parce qu'en lisant beaucoup, puis en étant comme conscient, comme en lisant aussi à un niveau plus élevé, tu sais, je lisais pas nécessairement comme des livres jeunesse, là, je lisais des romans d'horreur, je lisais comme de la poésie, je lisais comme de tout. Ça m'a donné vraiment comme, tu sais, des mots pour nommer en fait ce que je vivais. Donc, c'est en utilisant les mots donc, que je me suis défini.
Hey, c'est bon. C'est révélateur ce que tu dis.
Ben écoute, disons que je suis là pour faire le point, d'une certaine façon, tu sais, puis même avec ce livre-là, puis avec ce EP-là, tu sais, je veux vraiment jaser beaucoup de ça. C'est important pour moi de le nommer, parce que j'ai longtemps refoulé ça, refoulé cette partie-là de ma vie, tu sais, pour essayer d'être autre chose. Puis là, rendu à comme 27-28 ans, j'ai comme fait un regard en arrière, j'étais comme, man, on dirait que ça fait comme 10 ans que je cours, comme ça fait 15 ans que je cours de comme ce que j'avais vécu dans ce temps-là, puis il fallait que j'y fasse face.
Tu courais pour te sauver ou tu courais pour te rapprocher de l'amour des gens ou de l'acceptation des gens? Parce que justement, ce qui me vient en tête, c'est, puis moi j'ai peut-être vécu ça un peu quand j'étais jeune, un peu du rejet, du bullying, des choses comme ça, puis je trouve que le plus qu'on se fait rejeter, plus qu'on cherche quand même à se faire aimer. à d'autres endroits.
Clairement.
Donc on fait des choses.
Ah oui, on a soif d'amour dans ce cas-là. On est assoiffé d'amour dans ce cas-là. Mais moi, en fait, c'est parce qu'il y a une grosse partie de ça qui c'était comme c'était du harcèlement violent.
Ouais.
Donc je me faisais comme poursuivre dans les rues, je me faisais crier des bêtises comme de monde dans une chambre, je me suis fait battre une couple de fois. J'en parle là, dans le livre de tout ça. Mais essentiellement, comment je l'ai vécu, c'était la raison pour laquelle je l'avais beaucoup refoulé, c'était parce que je n'étais pas capable de vivre avec cette espèce de self-loathing, de haine envers moi-même. Puis, j'étais pas capable de l'extérioriser, fait que je me suis comme inventé une espèce de personnage, une espèce d'autre Daniel, tu sais, pour comme naviguer le monde, comme, tu sais, un gars qui était tout le temps content, un gars qui était tout le temps souriant, puis ben affable, puis ben...
Jusqu'au début de la vingtaine, jusqu'à tout récemment,
jusqu'à l'âge de comme 25 ans.
Ouais.
Sérieux.
Ouais.
À un moment donné, non, sérieux, c'est for real, comme à un moment donné, j'ai vraiment fait l'inventaire là, de qui j'étais, qui je suis. Puis je suis comme arrivé à la réalisation que comme quand je suis parti du Nord, puis que je suis allé dans l'Est, que j'ai comme cherché quelque chose que... J'ai comme cherché quelque chose que j'avais jamais eu, je pense. Puis je sais pas si je l'ai trouvé. Je sais pas qu'est-ce que je recherche, en fait. Peut-être que je recherchais l'amour des gens. Peut-être que je continue de le faire avec ces œuvres-là. Mais en même temps, je pense que c'est plus l'amour de moi envers moi-même, tu vois. Parce que c'est pas quelque chose qu'on développe nécessairement quand on n'a pas d'amour externe. Donc, il y avait comme une espèce de vide en moi que je cherchais à combler, puis que j'ai longtemps cherché à combler, soit à travers les projets artistiques, soit à travers le travail, ou à travers d'autres moyens, peut-être moins sains. Fait que tu vois, c'est... Donc, je suis arrivé à un bout dans ma vie, dans les 2-3 dernières années, où est-ce que j'ai vraiment fait l'inventaire de ça, que j'ai vraiment fait un regard en arrière, que j'ai décidé qu'il fallait que ça change, qu'il fallait que je trouve une façon de m'aimer, puis qu'il fallait que ça passe par quelque chose de concret. Puis c'est le livre, c'est l'album, c'est aussi
la scène.
La scène, c'est comme une espèce de réinvention de qui je suis maintenant dans le présent. Là, c'est comme j'avais comme un projet avec Hell Heart, qui était une espèce d'affaire broche à foin, expérimentale. C'était comme mon autre persona avant.
Okay.
Un persona d'artiste bilingue.
Ah, c'était ton nom d'artiste.
Hell Heart, c'était comme une espèce de nom d'artiste. Où est-ce que j'avais fait des affaires à moitié. Puis à ma année, j'étais comme... À un moment donné, tu sais, comme Amoragie avait paru mon deuxième recueil, puis là, tu sais, j'avais fait comme le deuil de ben des affaires, puis j'étais comme rendu à quelque part d'autre. Fait que là, j'ai dit, ben, au lieu de continuer à faire des shows à toutes les semaines, faire 2-3 shows, puis des open mic, puis des affaires à toutes les semaines, peut-être que je devrais juste comme mettre un pause sur tout. Mettre une pause vraiment là-dessus, mettre une pause sur, comme, tu sais, carrière en communication, mettre une pause sur, comme, tu sais, les affaires qui prenaient énormément d'énergie, puis juste me recentrer sur moi-même. Puis examiner exactement qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que je veux être.
C'est comme si tu te donnais à compte-gouttes pour toujours avoir un... être présent.
Ouais.
Puis là, tu as décidé d'arrêter. Je veux pas, quand t'arrêtes, tu t'es fait... t'es oublié un peu des fois de la mémoire collective.
Oui.
Mais pour venir en force.
C'est ça. Oui, en fait, je pense que ça faisait partie donc de l'initiative avec Frank Manticelle puis Champ Lunaire. C'était de me recueillir, puis de dire, OK, ben là, je suis rendu à un stade où est-ce que, tu sais, je l'ai fait mon premier livre, puis j'en ai fait des albums, des projets de musique. Fait que là, comme, mais c'est qui Daniel Rolland-Landry? C'est qui ce personnage-là, cette personne-là? Puis j'ai décidé d'aller vraiment donc avec la musique, avec l'image, donc dans quelque chose de minimaliste, de juste une photo noir et blanc, de juste un gars avec sa guitare.
On parle de l'album
Champ Lunaire.
Champ Lunaire.
C'est ça.
Combien de chansons encore là-dessus?
Il y en a 5.
Il y a 5 chansons. Donc on appelle ça un EP, mini-album.
Ouais.
Bon,
par rapport au nombre de tracks, mais ouais, même comme 26 minutes de
c'est
musique.
C'est ça, c'est ça. Parce que c'est un album, c'est-tu compté par minute ou c'est compté par chanson?
Ah, je pense que c'est compté par minute.
Par minute, fait que c'est un album d'abord.
Bof, non, c'est un EP. Là. C'est une minute de plus que qu'est-ce qu'on dirait. Là,
OK, OK,
sur,
OK, OK.
So c'est un EP, for sure.
Mais quand même, tu sais, je te l'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on s'est parlé, c'est très assumé, c'est bon. Je reconnais des influences. En même temps, je te découvre. Je ne m'attendais pas pas que j'avais une idée de fait, ouais. mais je pensais pas que ça pouvait ressembler à ça. C'est très bien produit. Mm-hmm. Quand tu as fait ton lancement, c'était un bon spectacle. C'était bien fait. Donc, bravo là-dessus. Tu as un album, yeah. Chant lunaire. Mm-hmm. Puis, tu as un recueil de poésie fragmentielle. Ouais. Les deux sortent en même temps. Parle-moi des propos dans Chant lunaire.
Je vais te dire, donc, Chant lunaire. Donc, il y a 5 chansons sur Chant lunaire. Donc, il y a la première chanson qui s'intitule Vocation, ensuite la chanson Saboteur, la troisième Cosmos, et ensuite Chant lunaire partie 1 et partie 2. Oh.
Oui. Oh. Tiens, comme ça, OK.
Oups. So, Vocation, la première toune, ça parle donc de l'obsession avec l'art, la création artistique. Puis comment que, finalement, c'est la vocation du poète ou de l'artiste, c'est de créer l'illusion, de créer la beauté dans le monde qui nous lie ensemble d'une certaine façon, tu sais. Puis comment que c'est quelque chose qui, une fois que tu l'as, c'est comme inexorable. Tu peux pas nécessairement t'en défaire. Saboteur, ça parle plus des relations. En fait, ça parle de moi. Là. Ça parle du fait que je me suis souvent auto-saboté dans mes relations amoureuses. Mm-hmm. Ou est-ce que je voulais être là avec quelqu'un à 100%, puis en même temps, je n'étais pas sûr s'il fallait que je parte, ou si la personne n'était pas assez, ou si moi, je n'étais pas assez bon pour la personne, ou l'inverse. Puis, où est-ce que je me mettais tout le temps des bâtons dans les roues. Puis ça, c'est un pattern qui est revenu souvent. Puis j'imagine que peut-être ça parle à d'autres personnes. Ensuite, Cosmos, ben, c'est une toune qui parle vraiment de... Ben, en fait, Cosmos, c'est un texte extrait de Rêver au réel, qui est mon premier recueil de poésie. Mais l'idée derrière Cosmos, en fait, ça vient d'un vers de Gaston Miron, qui est un poète québécois, qui a... l'image, c'est toute simple, c'est la constellation de nos signes. Donc, cette constellation-là de nos symboles, de nos signes, de nos mots, de nos images, finalement, qui illumine un peu le ciel au-dessus de nous, tu sais, comme quand on regarde dans nos rêves et quand on regarde dans ce qui nous donne envie de vivre, tu sais, c'est une espèce de cosmos de mots et d'images et de sensations et de souvenirs. Donc, ça parle de la connexion de l'artiste avec ce cosmos-là, puis comment qu'il est une espèce de vaisseau pour ça. Mm. C'est pour ça que c'est au milieu du recueil, parce que c'est vraiment un des propos centrales. Mm-hmm. Chant lunaire, ça, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent, parce que Chant lunaire, ça parle, en fait, plus d'évasion. Donc, ça parle vraiment de l'évasion dans l'art. « M'attends pas, je suis sur la lune », ça c'est le refrain de « Chant lunaire partie 1 », qui est le single. Puis essentiellement, ça parle donc du fait d'être trop pogné dans ses affaires, d'être trop pogné dans sa tête, d'être trop pogné dans ses images et tout ça, puis de dire « finalement, je peux pas faire une connexion avec toi parce que je suis pogné dans ma tête ». L'inverse ensuite, avec « Chant lunaire partie 2 », ça montre un peu la relation entre la muse puis l'artiste. Puis un peu cette relation qui est un peu abusive, un petit peu fucking des fois, là, qui n'est pas tout le temps évidente. Là, puis ça finit sur un outro instrumental qui est un peu comme la libération de l'artiste. Une fois qu'il a nommé ça, cette obsession-là, cette vocation-là, cette espèce de bourdonnement d'images et tout ça. Donc, Chant lunaire, c'est juste comme... C'est différentes slices de ce que c'est d'être obsédé par l'art, oui. De ce que c'est d'être obsédé par les différentes formes d'évasion, tu sais, par l'art. Puis, qu'est-ce que ça représente pour moi comme artiste de vivre ça?
Mais fragmentiel, j'ai senti... il y a des détresses là-dedans.
Oui, man.
Il y a des hauts secours. Il y a des fois, c'est toi qui cherches une main, puis des fois, c'est toi qui tends la main. Je me trompe pas.
Non.
Parce que je t'avoue, la poésie, des fois, c'est faut que tu le relises deux fois. Pour un, c'est beau, c'est poétique, c'est musical. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai certains passages, je lisais une deuxième fois pour me dire, OK, c'est quoi l'histoire? Ouais. Parce que c'est pas juste des mots par n'importe comment. Là.
Non.
Tu t'en vas quelque part. Mm-hmm. Donc, il y a un personnage dans J'oublie où, là, j'avais fait un petit bookmark là, que je retrouve pas, mais il y a un personnage en fragmentiel. Donc, je vais essayer de te peindre l'image, puis tu me diras si je comprends bien. Un ami qui était cher pour toi,
oui. Vous
vous êtes séparés pendant un bout,
yep.
Puis lui, il a pris un tournant du chemin qui n'était pas celui que toi tu as choisi. Ouais. Un peu comme la toune de Dédé d'un coloc, là. Il y avait de la coke dans les veines, puis tout ça. Peut-être pas de la coke dans les veines, mais tu retrouves un vieil ami. J'essaie de me rappeler les paroles des colocs. Mais tu retrouves un ami, puis il n'est pas dans son état.
Il avait
de la coke dans les veines.
Il avait tout son corps qui penchait par en avant. Oui.
Mais sûr, c'est qu'il fait pitié, puis tu ne sais pas comment tu peux l'aider. Puis tu te rappelles juste de ce qui était avant. Les chemins sont séparés, puis toi, tu le retrouves dans un état comme ça. Et puis, c'est ça que j'ai senti là-dedans. C'est qui? Puis-tu m'en parler un peu de cette situation-là?
Yeah. So, c'est mon meilleur ami d'enfance. Son nom, c'était Eric. Il est décédé l'année dernière, malheureusement.
Désolé.
Il est décédé d'une crise cardiaque, okay. Je pense, quelque chose de même. Il y avait une malformation au cœur qui n'avait pas été détectée par les docteurs. Eric, c'était une des personnes les plus gentilles, outgoing que j'ai rencontrées de ma vie. C'est une personne qui acceptait tous les gens comme qui était.
Dans ta période jeune où tu te sentais rejeté, lui était là pour toi.
Oui, c'est ça. On était inséparables quand on était enfant. En fait, c'était vraiment, on était comme quasiment tout le temps ensemble, de l'âge de comme 7 ans à 11 ans. Puis, tu sais, on a comme, tu sais, notre première expérimentation comme de drogue, puis d'alcool, puis tout ça, on les a fait ensemble, tu sais. Puis, tu sais, comme pour moi, en fait, la raison pour laquelle je l'ai inclus dans le recueil, c'est parce que pour moi, quand je pense à mon enfance, je retourne tout le temps à ce parc-là, à ces montagnes-là, à ce petit coin de Sudbury qui était dans le West End de Sudbury, qui était un lieu, qui était une espèce de forêt dans les suburbs où est-ce qu'on allait pour jouer, puis qu'on allait pour comme, tu sais, inventer des affaires, faire du role-playing ou des affaires de même, là, tu sais. Puis qu'on se perdait des jours et des jours de temps, là, des fois, là, comme à juste, tu sais, dans des games, des affaires de même. Puis c'est parmi mes moments préférés de mon enfance. Puis quand je retourne là, c'est comme la première fois vraiment que j'ai ressenti comme de l'amour pour quelqu'un d'autre. Comme qui n'était pas comme ma famille, là, tu sais.
Ouais, ouais.
So pour moi, c'est pour ça que ça reste vraiment...
On parle d'un amour fraternel?
Comme d'un amour fraternel. Oui, c'était pas romantique pantoute, là, pour deux cents. Je veux pas que les personnes... personne fasse une lecture comme ça. C'était vraiment un amour amical.
C'est vraiment ça que j'ai senti, un amour fraternel.
Oui, c'est ça. So, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, ben, quand on a eu comme 14-15 ans, ben là, moi, j'ai commencé à faire bien plus de théâtre, puis de musique, puis des affaires comme au secondaire, puis je faisais des sports, puis tout ça, puis j'étais bien impliqué dans les activités extracurriculaires, tandis que lui était bien plus impliqué avec du monde qui faisait de l'expérimentation, des hippies, qui prenaient des mushrooms, puis des affaires de même, puis on s'est perdu de vue parce que nos styles de vie étaient devenus vraiment un peu plus différents, puis il y a eu des affaires comme on s'est chicané une couple de fois, mais tu sais, en fait, Eric, c'est aussi, il m'a sauvé la vie. Moi, quand j'ai eu 14 ans, j'ai... 13-14 ans, je m'en souviens plus exactement, mais j'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais amoureux de quelqu'un, puis c'était pas réciproque, puis même quand j'ai dévoilé ça, il m'a carrément comme détruit verbalement, puis ça a été comme extrêmement traumatisant. Quand je suis retourné chez nous, j'ai pas dit un mot à personne, j'en parle dans le livre, j'ai pris deux bouteilles de Tylenol, puis j'ai volé une coupe de bière de mes parents, puis je suis allé dans ma chambre.
Babette, non, c'est pas ce passage.
Non, ça c'est dans la première partie, okay. Ça c'est dans... Mais je peux te le lire.
Termine ton histoire, puis dis-moi le passage.
L'histoire, c'est que Eric m'a sauvé la vie. Parce que j'étais au téléphone avec lui pendant que j'étais en train d'avaler les Tylenol et les Advil. Puis j'étais en train de lui dire je suis plus capable de le faire, je suis pas capable de le vivre. Puis il m'a dit arrête. Il m'a dit, c'était juste ça, I don't want you to die. Il m'a juste dit arrête. Puis j'ai arrêté. Puis j'ai pas tout avalé, toutes les bouteilles, je les ai laissées de côté. Je me suis réveillé le lendemain matin, puis j'ai vomi ma vie.
Ouais. À cause des pilules,
à cause des tylenol, puis de l'alcool, j'ai vomi ma vie, puis une chance, j'ai vomi ma vie, parce que là, je suis encore là aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'il y avait dans sa présence à ce moment-là que c'était détruit par l'amour?
lui, c'est un ami. Je veux dire, ta famille aurait pas. Peut-être ta famille aurait pu dire des paroles, puis n'aurait pas autant d'impact que lui a eu. Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là dans son
c'est
axe?
La seule personne qui me comprenait.
OK.
Comme moi, je pensais pas que mes parents me comprenaient. Je pensais pas que mon frère, ma soeur me comprenaient. Même, j'étais juste en détresse. J'étais juste en état de crise. Tu vois, comme il n'y a pas nécessairement un côté rationnel à pourquoi je l'ai fait. Je veux dire, j'étais un kid de 13 ans. Je veux dire, comme c'est ça. Il n'y a pas rien de rationnel là-dedans. Là. J'ai juste dit fuck it, je vais juste aller me tuer. Puis c'était horrible. So, ouais, c'était vraiment... mais lui était là, tu sais, quand j'en avais besoin de lui. Puis même si je suis certain que lui, ça aussi est traumatisant, tu sais, comme...
Ouais.
T'imagines, tu sais, avoir cet âge-là, quelqu'un fait ça sur le téléphone. Mais de toute façon, j'en ai jamais vraiment parlé de ça, puis
publiquement. Mais est-ce que toi et lui, vous en avez reparlé? Ou
on en a reparlé une fois après, puis il m'a dit, you know, man, I don't even care, you know, that you're gay, I don't care that you're bi, I don't care, whatever, like, tu sais, we're still friends, I still care about you. Puis ça, c'était vraiment comme, ça, c'était vraiment la première fois que quelqu'un
m'a dit. C'était tellement des ça. Paroles powerful quand t'en as besoin, surtout.
Yeah, man,
ouais.
for sure. So, anyways, je peux lire l'extrait en question.
Oui.
Petite leçon d'histoire franco-ontarienne. Au début de la première décennie du second millénaire depuis la naissance du Christ, être un adolescent gay affirmé dans le nord de l'Ontario, ça voulait dire que tu te fermes la gueule, tu fais semblant de ne pas exister, d'être autrui, ou tu fonces dans le tas en espérant faire peur pour qu'il te sacque la paix. Isolé, écorché par l'humiliation de constamment s'expliquer, mentir, répondre aux questions sur ton cul ou le cul des autres, puis obligé de soutenir le regard de ceux qui croient que c'est une abomination. La discussion n'avait pas encore beaucoup avancé. Testostérone, j'ai choisi le dernier, fuck you, et je dis, sans pardonner, supplice silencieux enduré sans chialer, et l'hôpital le nez cassé après une bagarre, riant avec une cigarette au filtre ensanglanté. Endurci, j'ai choisi de combattre la haine de la vie. Je n'ai pas grandi sous la tutelle d'un mineur de Linkel, mais bien d'une famille nucléaire, de parents fonctionnaires, d'amour fonctionnel, béni soit-il. On raconte des grandes histoires d'amour, de souffrance. On trouve dans la beauté du monde une fontaine de jouvence insatiable, asphyxiée, besoin de s'envoler, faute de billets d'avion, incendier le vide d'images psychédéliques. Combien d'enfants du Nord perdus dans ces labyrinthes de glace, disparus dans les remous de l'érosion spirituelle des gestes d'un quotidien homogène. Conclusion rapide. C'est la poésie, la musique, la scène qui m'ont sauvé. Au bord du gouffre, deux bouteilles de Tylenol vide sur l'oreiller, bière vide, un moment de faiblesse, terrifié d'être à jamais détesté de tous, jette la première pierre, tire la première balle, la dernière bouteille, l'éveil, les vomissements de mort dans la toilette du sous-sol, les pleurs, non pour la douleur, mais pour l'impossibilité du soleil. Les effleurements des nerfs et le reflet de ma silhouette dans la cage de la douche, accroupi, bénissant les égouts, les reins gonflés de rire retenu. Non, je ne veux pas mourir. Mesdames, messieurs et tous ceux entre les marges, le fantôme de cette première brosse avec la mort, l'alcool, la sève, le rêve, le cauchemar pour détruire à 14 ans mon enfance, effacer ma différence, noyer la lune dans les crachats des démagogies hégémoniques à la racine du souffle, abandonner la chair à l'incinérateur, un testament écrit en mégots sur le pavé, plutôt quitter qu'essayer d'être aimé.
Ouais. Là, avec la discussion qu'on a eue avant, ça donne un peu plus
de substance.
De
hein?
substance. Puis, wow.
Yeah.
Tu t'ennuies d'Éric?
Man, je oui. Oui, bien sûr, je m'ennuie de lui. Mais tu vois, à un moment donné, on s'est perdu de vue. Tu vois, comme ce qui est arrivé, en fait, c'est que, puis j'en parle dans le livre, c'est qu'à un moment donné, lui est parti dans son affaire. Puis moi, je suis parti dans mon affaire. Puis on a reconnecté comme après plusieurs années. Puis tu sais, j'ai vu que comme la drogue l'avait vraiment comme magané. Puis il était comme en état d'arrestation là, comme il était, ça faisait comme two years house arrest puis tout ça, puis il souffrait énormément, puis je savais pas quoi faire pour l'aider parce que lui il m'avait aidé, tu vois, mais moi je savais pas quoi faire pour l'aider. Fait que j'ai juste dit comme, hey man, you just want to hang out, tu veux juste comme faire de quoi, tu sais, puis pas comme, c'est pas s'intoxiquer, whatever.
Ouais, c'est ça.
Puis, tu sais, on jasait, mais c'était clair qu'on avait tous les deux changé. Puis l'affaire, tu vois, c'est que, tu sais, c'était une période dans ma vie où j'aurais pu tomber, moi aussi, dans ce style de vie-là complètement, tu sais, tu vois, comme, oui, j'ai eu mes problèmes, mais comme en même temps, j'aurais pu vraiment complètement tombé sur le bord. Puis, tu sais, ça m'a fait réaliser que j'étais chanceux, finalement, que si une ou deux choses avaient été différemment, une ou deux opportunités de moins que j'aurais pas eu, tu sais, oui. ça aurait dû changer la donne, tu vois. Je serais peut-être mort maintenant. Mm-hmm. So, pour moi, c'est important de le nommer, parce que je nomme, en fait, une gratitude que j'ai par oui. rapport à ça. Puis aussi la difficulté de ce que c'est d'être différent dans n'importe quelle société là, qui nous marginalise puis qui nous fait sentir comme si on vaut moins juste parce qu'on n'est pas pareil aux autres, tu vois.
Oui. Qui est pareil, mais...
Mais en même temps,
mais
ouais.
C'est ça. Mais on s'entend que...
Il y a des degrés.
C'est ça. Mais faut gratter un peu plus pour y arriver, pour avoir cette affirmation-là que tout le monde est différent. Il y a quand même ce front-là où on se fait faire à croire à chaque jour qu'il y a des normes et des standards. Tu sais.
Mm-hmm.
C'est ton troisième recueil.
C'est ça.
T'en as eu deux avant.
Oui.
Tu peux les nommer?
Oui, Rêver au réel, c'était mon premier recueil publié en 2012. Et Amoragie, qui est mon deuxième recueil, qui était publié en 2016. Fragmentiel, mon troisième. Les trois sont publiés aux éditions L'Interligne ici à Ottawa.
Tu as eu des reconnaissances.
Oui.
Parle-moi un peu yes, là, de ton profil d'auteur.
Oh my God.
Parce que quand même, tu fais des salons du livre, yep. tu rencontres des gens, mm-hmm. Tu as eu des prix, tu as eu des bourses.
Oh, j'ai l'immense privilège ouais. que ça m'a. J'ai l'immense ouais. privilège que ça va bien.
Ouais.
Écoute, moi, j'ai reçu le prix Trillium en 2014 pour mon premier recueil de poésie Rêver au réel. Le prix Trillium, c'est la plus haute distinction en littérature en Ontario. Je le draw pas à toutes les deuxièmes conversations,
hey,
mais
quand
en même temps,
c'est
quand même quelque chose. c'est quand même, ça vaut la peine d'être dit.
Oui.
J'ai remporté ça. J'ai été finaliste aussi pour le prix du président de l'Assemblée législative, qui est dans la Chambre des communes de l'Ontario. Ils ont un prix littéraire. J'ai aussi, donc pour Amoragie, j'ai été finaliste au prix des écrivains francophones des Amériques. J'ai reçu une mention d'excellence de leur part, qui est vraiment cool, parce que ça, c'est une association.
Ça, c'est juste une mention. Il n'y a pas de.
Ben, bourse. C'est comme il y a la première mention. Il y a comme première mention d'excellence, deuxième mention.
C'est comme un collant. Tu peux mettre l'autocollant sur ton livre.
C'est un slap on the back. Là.
Oh, ouais, c'est ça,
mais c'était quand même, comme le troisième. Si on veut dire ça, ou comme dans le top 5 de comme 86 recueils qui ont été soumis
okay.
des Amériques.
Oh,
ouais.
So, hey, c'est très bien.
C'est pas rien.
Ça.
Puis il a été aussi finaliste au prix Émergence AOF, qui est un prix de l'Association des auteurs de l'Ontario français, qui récompense donc les auteurs émergents. Donc, j'ai été finaliste. C'était quand même une belle reconnaissance pour Amoragie. Je dois avouer qu'avec Fragmentiel, j'ai encore plus progressé. Je vais vous dire, moi, je suis capable de prendre des pauses une fois de temps en temps, de travailler de 9 à 5, puis faire de la poésie parce que j'obtiens des subventions du Conseil des arts de l'Ontario. Je remercie le Conseil des arts de l'Ontario à chaque fois que j'ai l'occasion ouais. parce qu'eux autres, ils me donnent tellement d'appui. C'est fou, là. Ça a changé ma vie là, quand j'ai pogné ces bourses-là. Ça m'a donné la chance de vraiment prendre du recul puis vraiment poursuivre ma démarche de façon concrète et professionnelle, ce qui n'est pas donné à tous. Il faut
ouais.
travailler fort pour ça. C'est long, puis ça prend ben de l'effort. Mais les amis artistes qui m'écoutent en ce moment, ils le savent. Puis la compétition est féroce. Je suis content que j'ai cet appui-là. Je continue, tu sais, maintenant, là, j'essaie de viser au Conseil
Une fois que tu
Canada,
performes bien avec eux, que tu as une œuvre qui a eu de la reconnaissance, tu montes en priorité un peu quand on évalue les demandes, j'imagine, non?
Non, c'est vraiment basé sur le mérite artistique ponctuel de l'œuvre du projet.
OK.
Au Conseil des arts de l'Ontario, en tout cas, c'est comme ça. Je pense qu'ils prennent quand même en considération comme l'impact que ton œuvre a, puis ils regardent un peu ton profil, mais vraiment, le jury pair qui détermine si ton œuvre est retenue, c'est vraiment comme d'autres artistes qui
okay.
évaluent la qualité artistique de ton œuvre. Donc, les prix, les bourses antécédentes et tout ça, ça n'a rien à voir, c'est vraiment la qualité artistique de l'œuvre
okay.
qui remporte. Ouais.
Ben, cool.
Ouais.
C'est le fun parce que
c'est encore plus le fun.
Oui, c'est ça, quand c'est tes pères qui te reconnaissent,
c'est ça. À un moment donné, c'était anonyme même en création littéraire, comme c'était juste l'œuvre. C'était pas, il n'y avait pas de nom de l'auteur. Maintenant, c'est différent. Là. Je ne sais pas trop comment ils le font maintenant. Là, mais
qu'est-ce que tu préfères, écrire pour de la musique ou écrire pour un recueil?
Oh, quelle question. Mon Dieu, c'est deux choses. Hein?
Parce que j'imagine qu'il y a un processus... De la page blanche, tu commences peut-être de la même façon.
Moi, là,
mais...
moi là, j'ai mon laptop, j'ai ma guitare, j'ai mon ampli, j'ai un petit peu d'eau, puis je pars. dans mon monde, puis je crée, puis des fois ça sort comme la poésie, des fois c'est un riff de guitare, des fois c'est des paroles de chansons, des fois c'est un événement, tu sais, en fait, c'est parce que moi j'ai quand même la formation dans plusieurs disciplines, tu sais, moi j'ai une formation à la base en théâtre, c'est ça que j'ai fait mon bac en théâtre, puis une discipline multidisciplinaire, tu vois, comme en théâtre. Moi, je voulais être acteur. Finalement, ça n'a pas marché. Puis j'ai comme changé qu'est-ce que je voulais faire. J'étais plus comme, je veux plus écrire. Puis je veux faire de la musique, tu sais. Puis parce que ça comporte quand même énormément de travail, tu sais, comme être un professionnel de théâtre. Puis j'admire beaucoup les gens qui sont capables de le faire. Moi, on dirait qu'à un moment donné, ça a juste changé là, par rapport à ce que j'aimais faire.
Mm-hmm. Tu découvres en processus.
Ben, c'est ça, tu sais, ouais. Comme, puis en plus, en théâtre, ben, t'as tellement la chance de toucher à des affaires différentes, ouais. Que, tu sais, comme des fois, tu commences, tu veux être acteur, tu finis régisseur, tu vois, comme ça.
Ben, veux pas, le théâtre, c'est pas perdu, parce que, est capable d'interpréter tes intentions.
Et voilà.
Que ce soit en mots ou en musique ou sur scène, c'est toujours là.
En diction, au microphone, quand on fait un texte comme Babel.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Moi, mon influence théâtrale, ma formation en théâtre m'a été extrêmement utile. Mm-hmm. Tant au niveau de la production d'événements qu'au niveau de la mise en scène de show, qu'au niveau d'avoir la confiance d'aller sur scène. Tout ça, je vais être éternellement reconnaissant à tous ceux qui m'ont mentoré, mm-hmm. qui m'ont appuyé dans cette partie-là de mon éducation. Je te dirais que ce que je préfère faire, c'est avoir l'espace pour créer. Mm. Quand si je travaille à temps plein puis que je veux créer en même temps, on dirait que ça prend le bord assez souvent. Pour moi, moi avant, quand je travaillais à temps plein, là, c'est comme sur une job, là, une carrière en com, c'était comme, OK, je travaille la semaine, puis après ça, comme le samedi matin, là, de 7h le matin à comme 5h, j'écrivais. Puis je faisais comme, tu sais, OK, je me réveille, j'ai mon petit café, puis je plonge dans mon univers.
Ça fonctionnait, ça?
Ça fonctionnait assez bien. Je veux dire, tu sais, je le faisais quasiment à chaque fin de semaine. Mm-hmm. Après ça, je sortais faire le party. Mm-hmm. Là, j'essaie d'être un petit peu plus sage. Là. Mm-hmm. Mais en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai le temps. Donc, j'ai cet été pour faire mon quatrième recueil de poésie. Puis aussi, je suis en train de... Ben là, j'ai plein de résidences qui s'en viennent. Fait que là, je suis en train de me concentrer aussi sur l'écriture de nouvelles chansons pour un album, un long album là, d'environ 12-13 tonnes.
OK. Puis ouais. Tu prévois faire ça. Quand tu penses que cet album-là va voir le jour?
Je ne sais pas.
On parle de 2-3 ans?
Ah, 2-3 ans, oui.
2-3 ans,
dans un bout. Dans un
Et
bout.
Quand même, le processus normal pour un 2 ans pour un album...
C'est vite.
Oui, c'est vite.
C'est vite. Ouais. Ça, c'est comme toutes tes tunes sont faites, t'as beaucoup d'aide. Mm-hmm. C'était grave de faire ça en 2 ans. Mon EP m'a pris 2 ans et demi, juste comme de la première ébauche de Saboteur à toutes les réécritures de toutes les chansons. Puis d'avoir l'opportunité de faire des résidences en création puis des collaborations avec d'autres artistes, c'est clé. Si t'as pas d'influence externe puis t'es toute seule dans ton basement avec ta guitare puis t'essayes juste de, par la vertigiosité de ta tête, de créer des affaires, souvent tu vas rester stock. Tu vois? Ouais. C'est important d'aller de tendre la main vers les autres puis de poigner ces influences externes-là parce que ça te donne l'occasion de redéfinir, de redécouvrir et d'affirmer ta démarche.
C'est qui tes influences?
Mes influences musicales et poétiques. Donc, je vais commencer avec la musique. Moi, mon artiste préféré de tous les temps, c'est Marilyn Manson.
Ah oui?
Marilyn Manson, ouais. C'est mon artiste préféré de tous les temps. Il est controversé. Il fait des affaires débiles avec ses vidéos. Sa musique rentre dans le dash. C'est rough. C'est bon. Je te dirais, comme tout le genre métal des années 90-2000, ouais. Comme le grunge, comme tu sais, Nirvana, obviously, ouais. Ensuite, tu sais. Mais il y avait aussi comme du rock progressif, comme Coheed and Cambria, tu sais, Tool est une grosse influence aussi, tu sais, par rapport à comme la conceptualisation, tu sais, les albums concept. Je te dirais, au niveau francophone, des grandes influences pour moi, c'est, il y a Midi Cayenne, qui est une grosse influence pour moi, j'adore ce qu'il fait. Il y a, ben, tu sais, dans le temps, Conflit Dramatique, tu sais, comme, tu sais, c'était pour moi, ça prenait beaucoup de place. Tu sais, Mastic aussi, c'était vraiment fort pour moi. J'ai beaucoup aimé qu'est-ce qu'ils ont fait avec De Sol et d'Éther. Il y avait Coudon.
Qui est un album, parce que la bande n'existe plus.
Ouais.
Mais l'album est encore très d'actualité, très à découvrir pour
J'adore
les gens,
la chanson à jamais provisoire. Là. Ça me pop dans la tête une fois de temps en temps.
Oui.
Puis il y a ça. Puis ensuite, tu sais, comme Pandaléon, tu sais, comme Pandaléon, ça a été comme, c'était vraiment cool parce que c'était, c'est riche en émotions, hein, Pandaléon. Ouais, comme, c'est vraiment raw. Puis
mais il y a une atmosphère, il y a une bulle, il y a un monde alentour de tout ça. Là.
Ah, c'est ça, c'est ça qui est le fun. Fait que j'essaie de. Pas de faire la même chose, pas tout, là, mais de vraiment plus comme trouver une façon d'avoir mon.
Mais
mon
je les ai sentis. Moi, j'ai senti. J'ai. Mané, écoutez, je vais. Ah, Pandaléon. Mastic. Il y a une toune que je vois le clin d'œil à Mastic. J'entends le clin d'œil à Mastic. Puis il y en a d'autres. Mais par contre, ça reste du Daniel.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, quand on connaît. Bon, là, tu les as dit, mais je les avais flairés un petit peu parce qu'on connaît des gens. Tu sais, on connaît le milieu, là.
Ben, oui, ben,
mais rien n'empêche, c'est très authentique.
Ben, écoute, moi, j'ai vraiment visé de trouver un son qui m'était propre, de trouver vraiment quelque chose. Moi, je fais du space rock progressif. Tu sais, comme, je sais ce que je fais, puis c'est comme ça que je le définis, mais moi, c'est une étiquette un peu, tu sais, comme, whatever, là, tu sais, comme. Ouais. Mais c'est du space rock dans un sens, c'est groovy, c'est. Puis en même temps, il y a un petit peu de disco, il y a un petit peu de. Tu sais, il y a toutes sortes d'influences différentes. C'est une espèce de melting pot de différentes tentatives que je voulais faire.
Tu as fait le ménage. Dans certaines habitudes, au niveau de la santé, au niveau de la boisson. On en parlait un peu tantôt avant de qu'on s'enregistre, où tu disais que tu limites beaucoup la boisson, quitte à ne pas en boire.
Ouais, quasiment plus. Là. Pis, plus ou moins, plus jamais que je vais boire.
C'est ça. Donc, tu laisses la place pour les projets dans lesquels tu veux vraiment pousser?
Ben, je te dirais les projets, oui, puis aussi les relations humaines. Ouais. Tu sais, comme moi, tu sais, pour moi, l'alcool, puis tu sais, comme le pot, ça fait de même. Tu sais, c'était vraiment des façons de juste comme m'isoler du monde pour rien ressentir, pour m'engourdir. Tu sais, il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à ça. Tu sais. Puis il ne faut pas stigmatiser ça. Au contraire, il faut le nommer puis le dire à voix haute que c'est quelque chose de malsain. Comme approche, tu sais, si tu veux utiliser ça de façon problématique. So, j'ai identifié ça au cours des dernières années par rapport à moi-même. Tu sais, avant, je me disais, ah non, je suis juste une party, je suis juste, tu sais, comme, c'est juste, c'est, that's the part of lifestyle. C'est ça fait partie du lifestyle d'artiste, de poète maudit, etc. Mais dans les dernières couples d'années, là, j'ai vraiment plus redéfini mon approche par rapport à ça. Puis j'ai pris la décision récemment là, d'arrêter de boire pour de bon. Ce qui est quand même un défi. Mais bon, c'est quelque chose que je veux vraiment entreprendre parce que ça a causé des dommages à plusieurs niveaux différents, là, tu sais, comme dans mes relations interpersonnelles, au niveau de moi-même, tu sais, mon estime de moi-même, ma santé, tu sais, comme ça. Pour moi, je viens juste d'avoir 29 ans là, cette année, puis je suis comme, you know what, I've done enough drinking for a lifetime. Je pense que je suis correct.
C'est ça.
Puis, tu sais, si jamais je veux faire un trip, je vais fumer un petit joint, je vais bien correct.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est toi qui m'as dit ça, que c'est le temps que tu deviennes un artiste à temps plein.
Ouais.
Puis depuis que tu as pris cette décision-là, les choses s'enchaînent.
Oui, c'est ça. Donc, on dirait que tout tombe en place depuis que j'ai pris la décision d'être qui je suis vraiment, qui j'ai toujours été tout le long. C'est clair que tu sais, prendre des contrats une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde là, non plus, tu sais, comme artiste, mais en même temps, je veux vraiment me donner la chance de le faire, tu vois. Comme, je veux vraiment me donner cet été-là pour vraiment développer, puis pousser, puis voir qu'est-ce que ça va me donner. Parce que, quitte à ce que ça me donne juste la maturité personnelle, au moins j'aurais fait l'effort, puis au moins je me suis donné la chance de vivre mon rêve, tu vois.
Hey, merci beaucoup d'être venu à la convo.
Yeah.
Juste avant de terminer, donc derrière la couverture, comment t'appelles ça, la couverture derrière?
La quatrième de couverture,
donc en arrière du livre.
En arrière du livre.
Fragmentiel, ce petit passage-là, je vais le lire. Okay?
Vas-y, fort.
Ce petit gars-là qui avait sérieusement besoin de thérapie, à la place a découvert le sexe, la drogue et la motherfucking poésie. Il s'en remet toujours à ce jour. Et voilà. Puis on l'a rencontré aujourd'hui, Daniel Groslot-Landry.
Merci beaucoup, Mathieu.
Hey, merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont un parcours intéressant et que vous pensez qu'ils seraient un ou une bonne invitée pour la convo, n'hésitez pas à communiquer avec moi via la page Facebook de Buzz Fortin. Merci encore d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine.